Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM.
J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais.
C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.
Très bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tous sur Delta FM. On est le 7 novembre. J'espère que vous allez très bien, c'est la rentrée. Il fait froid, mais c'est la rentrée quand même. On est avec Clément aujourd'hui.
Salut.
Clément aussi.
Salut.
Et Ancelin.
Salut.
Alors aujourd'hui, on va parler de cyclisme avec Ancelin, de Clément. Pardon, de cyclisme aussi avec Clément. De Ligue 1 avec Clément. Et après, je m'occuperai de la Liga et de la Ligue des Champions. Donc on commence tout de suite avec le cyclisme avec Ancelin.
Je vais vous présenter la saison des courses UCI du World Tour masculin. Donc pour les hommes, la saison 2026 commence dès janvier et s'étire jusqu'en octobre pour 36 courses et 171 jours de compétition. Je vous propose un tour mois par mois des principales courses à suivre cette année. Donc en janvier, le coup d'envoi se fera en Australie avec deux courses réparties en 7 jours de compétition. C'est le moment où beaucoup d'équipes testent leur forme. En février, on retrouve deux autres courses, dont le UAE Tour aux Émirats Arabes Unis, une épreuve qui attire des sprinteurs. Mars sera chargé avec 27 jours de compétition. On y retrouve des classiques très attendus comme les Strade Bianche et Milan-San Remo. En avril, c'est la saison des classiques, ça atteint son apogée, avec 3 des 5 monuments, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. On y verra aussi des courses comme le Tour de Romandie et la Flèche Wallonne. En mai, deux courses au programme, dont le premier grand tour de la saison, le Giro. Le mois de juin, donc, il comporte trois courses, parfait pour peaufiner la forme avant les grands rendez-vous de l'été. Donc, au mois de juillet, place au Tour de France, dont j'aurai l'honneur de vous présenter juste après pour détailler le parcours. En août, il y aura six courses, parmi lesquelles le dernier grand tour de la saison, la Vuelta, qui se déroule du 22 août au 13 septembre. En septembre, il y aura aussi le Grand Prix de Montréal et le Grand Prix du Québec, donc deux manches qui attirent souvent les sprinteurs et les punchers. Et la saison se terminera en octobre avec la dernière course World Tour masculine 2026 avec le Tour de Guangxi en Chine. Voilà pour les hommes.
Nickel. Okay.
Donc là, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde, on va dire.
Non, c'est toutes les courses réparties sur l'année.
Et ça, et puis en fait, c'est ça. C'est du coup, chaque début d'année, c'est un peu toutes les classiques et tout. Mais même moi, j'étais surpris que je pensais qu'ils commençaient plus tard. Enfin, je sais qu'ils commençaient en mars, ils commencent dès janvier.
Ouais, bah après, c'est oui, c'est plus en mars où ça commence vraiment.
Ouais.
Plus,
parce qu'après, ouais, janvier, c'est peut-être pas retransmis à la télé. Enfin,
bah, c'est le tout début.
Ouais, ça, c'est le tout début. Mais, ouais. Non, mais c'est super. Parce que, enfin, en plus, c'est ça, on se rend compte qu'il y a, t'as dit, 171 jours.
Ouais.
De compétition, bon, après tous les coureurs, j'imagine, ne font pas les
oui, bah non,
toutes les compétitions. Voilà, ça serait beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même énorme. Enfin, il y a quoi, ouais, de s'amuser. Mais voilà.
Voilà. Donc pour les femmes, donc ça commence aussi en janvier en Australie avec deux premières courses où les leaders testent leur forme. En février, il y a deux rendez-vous, dont le UAE Tour Women. En mars, c'est le mois des classiques avec environ cinq courses majeures, dont les monuments du printemps. Les Strade Bianche, donné. Milan-San Remo, donné. Donc en avril, il y aura Paris-Roubaix, donc une nouvelle date cette année. En mai, place au Grand Tour par étapes, donc le Giro d'Italia Women et la Vuelta Feminina. En juin, deux courses importantes proposent des contre-la-montre et des arrivées au sommet. En juillet, il n'y a pas de course cette année, donc c'est généralement plus calme pour le World Tour féminin, où les équipes privilègient la récupération, le travail en altitude et la préparation spécifique avant les grands rendez-vous d'été. Et en août, bah, c'est le mois fort avec le Tour de France Femmes avec Zwift. Donc, c'est une épreuve majeure de la saison. Donc, en septembre, le calendrier propose deux courses courtes et rapides. Et la saison se conclut en octobre avec deux dernières épreuves, dont la dernière manche World Tour, le Tour de Guangxi en Chine.
Ouais, mais on voit bien la différence entre les ouais, garçons et les masculins et les féminins, ouais, parce que les masculins, vraiment les trois tours s'enchaînent. Mm. Là, on peut vraiment faire. Après, j'imagine que le Giro et la Vuelta, ouais, ils s'enchaînent aussi chez les femmes, le Giro et la Vuelta.
Ouais.
Voilà. Mmh. Mais après, le Tour de France, je vois qu'il y a le Giro Vuelta d'un côté, et après, vraiment, en août, le grand monument, ouais. Le Tour de France. Mais, et est-ce que, parce que j'avais une question, le Tour de France masculin, c'est bien 3 semaines, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
3 semaines. Les, chez les filles, c'est.
C'est 9 jours.
Ouais. 9 jours, ça.
Ouais, c'est et beaucoup plus.
Est-ce qu'ils prévoient, après, dans les années prochaines, à un peu agrandir ou...
Bah, je pense, oui. Après, c'est un. Enfin, c'est le budget, oui.
Ouais, ah oui, ok, ouais. Oui. C'est vrai qu'il y a le budget. Ouais.
C'est le budget, ok.
Ça okay. Apporte moins d'argent, le Tour de France femme.
Bah, ça fait que 5 années qu'ils essayent. Mm. Donc...
Mais il y a quand même... Parce que cette année, il est passé dans la Vienne, là, il me semble. Il y a
l'année dernière.
Ouais, l'année dernière. Ouais. Cette année, il est passé... Il y a une étape qui a commencé à Poitiers.
Ouais, je suis parti la voir, j'étais loin.
Ouais, t'es là, moi aussi, j'étais allé la voir. Non, ça, en vrai, ça ramène du monde, le Tour de France femme. Ouais. Ça fait plaisir quand même pour les filles. Non, bah, nickel.
Donc, je passe à la présentation du Tour de France femme avec Zwift. Donc ça sera la 5e édition. Donc il a été dévoilé le jeudi 23 octobre au Palais des Congrès à Paris. Donc le grand départ partira de Suisse, où les 3 premières étapes se dérouleront avant que le peloton ne rejoigne la France. La 4e étape sera un contre-la-montre individuel de 21 km entre Gevrey, Chambertin et Dijon. La 5e étape aura des côtes courtes mais rudes. Puis la 6e étape sillonnera le massif central en direction de l'Ardèche. La 7e étape sera l'étape reine avec l'ascension du Mont Ventoux, décisive pour le classement final. Ensuite, le peloton partira de Sisteron pour une étape longue vers Nice, avant la dernière arrivée à Nice le 9 août. Au total, ce Tour 2026 comptera 9 étapes pour 1175 km et 18 795 mètres de dénivelé positif. Un parcours qui est annoncé comme le plus difficile de l'histoire de l'épreuve. En conclusion, cette édition empruntera l'école de 3 massifs, le Jura, le Massif Central et les Alpes. Il y aura 22 équipes composées de 7 coureuses.
Okay. C'est vrai que ça monte beaucoup, mais attends, j'avais une question moi aussi, parce que je ne sais pas ce que j'en pensais aussi. Vous voyez, Clément Ancien, je vous pose à vous deux, parce que vous y connaissez beaucoup. Vous en pensez quoi que les grands tours, que ce soit Tour de France, même si ce soit pareil, hein, je pense au Tour d'Italie, Tour d'Espagne, ça commence à l'étranger. Parce que je sais que depuis quelques années, ils font beaucoup ça, je crois avant ils ne faisaient pas ça. Et c'est vraiment depuis quelques années, c'est un peu le. Bah après, je pense que c'est une question d'argent. Mais vous en pensez quoi, vous deux, par exemple, que ça commence à l'étranger, vous trouvez ça bien ou non? Tour de France, c'est vraiment qu'en France pour vous?
Le Tour du Sud.
Ouais, c'est ça, voilà.
Après, il n'y a pas que le Tour de France, oui, qui part à l'étranger. Voilà. Mais... Ouais.
Vous pensez que c'est bien, enfin, c'est pas grave c'est pour.
Bah, après, il arrive en France après.
Oui, voilà, il arrive en France, c'est sûr. Ok, mais après, si je pense que c'est surtout une question d'argent.
Ouais. Oui, parce que quand c'est un grand départ, il y a au moins 3-4 étapes avant de partir dans notre région.
Ouais. C'est ça, ouais. Ok. Ouais, mais après, ça. Ouais. Comme on dit, l'argent fait l'argent. Enfin, voilà. Exactement. Bon, nickel. Ouais,
donc, pour le Tour de France homme, donc, ça sera la 113e édition. Donc, il a aussi été dévoilé le jeudi 23 octobre au Palais des Congrès à Paris. Donc, le grand départ aura lieu en Espagne, à Barcelone, avec 3 étapes en Catalogne avant que le peloton ne rejoigne la France par les Pyrénées. La course traversera aussi le sud-ouest pour rallier Bordeaux, puis remontera vers le Massif Central avec plusieurs étapes vallonnées et sélectives. Le parcours comptera aussi des étapes plus centrées géographiquement, des étapes dans le Jura, puis plusieurs journées décisives dans les Alpes, avec notamment 2 ascensions de l'Alpe d'Huez. Rien ne sera joué sur ces étapes de montagne où le classement général pourra basculer à tout moment. Comme d'habitude, le tour se conclura à Paris avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et pour la 2e année consécutive, le peloton grimpera 3 fois la rue Le Pic, une côte longue de 1,1 km à 6%, reprise à chaque passage. Le dernier passage devant le Sacré-Cœur interviendra à 15 km de la ligne, ce qui laisse plus de marge aux sprinteurs pour ramener les échappés. Au total, ce tour 2026 comptera 21 étapes pour 3333 km et 54 500 mètres de dénivelé positif, un parcours résolument montagneux. Ils seront 184 coureurs répartis en 23 équipes à s'aligner sur la ligne de départ le samedi 4 juillet à Barcelone.
C'est super, on imagine que Pogacar est encore le grand favori cette année, ça change pas?
Bah on verra bien.
Mais normalement, c'est lui le plus grand. Après, Vingegaard, peut-être le retour. Ça fait 2 ans d'affilée qu'il gagne Pogacar, il me semble.
Ouais, c'est ça.
2 ans d'affilée. Ouais. Vingegaard, peut-être qu'il va essayer de surprendre Pogacar, parce qu'il l'a jamais gagné. Si, il a gagné une fois, Vingegaard.
Deux fois, je crois.
Deux fois le Tour de France, deux fois. Okay. Donc, non, mais c'est vraiment la grande rivalité. Mais c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, ça, c'est Pogacar qui vraiment domine le vélo, le cyclisme masculin. Ouais, super.
Puis, je vais revenir aussi le podium du classement UCI. Donc pour les hommes, sur la saison 2025, ça a été mené par Tadej Pogacar, suivi de Jonas Vingegaard et Isaac Del Toro Romero. Donc du côté des équipes masculines, les 3 premières sont UAE Team Emirates, Team Visma Liseback et Lidl Trek. Chez les femmes, le top 3 individuel du classement UCI de la saison 2025 est Demi Vollering, Lorena Vibes et Marlène Russer. Donc, parmi les équipes féminines, les mieux classées figurent en première place FDJ Suez, donc, équipe basée à Genève-Marigny, puis Team SD Work, ProTime, et ensuite UAE Team ADQ.
C'est quand même super, une team FDJ Suez à Genève-Marigny.
Ouais, c'est fou ça.
C'est fou, hein. C'est comme par exemple, je sais que c'est pareil, des fois on en parle que notre région ou tout, il n'y a pas quand même de grandes choses.
Ouais.
Mais là par exemple, je ne sais pas si vous connaissez aucun rapport, comment il s'appelait celui qui avait gagné les 500 matchs d'Indianapolis. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et bien il venait de Montmorillon. C'est Simon Pagenaud, il me semble. Ça vous a peut-être dit quelque chose, c'est ça, c'est mon page nom. Mais il a gagné 500 matchs d'Indianapolis et il vient de Montmorillon. Donc ça, cette fois, ça fait des trucs bizarres comme ça, mais c'est assez marrant.
Ok. Bien, merci beaucoup, Ancelin. On va passer à encore au cyclisme avec Clément cette fois-ci.
Donc, alors que la saison de cyclisme s'achève, deux rendez-vous majeurs ont marqué l'automne. Donc, il y a le Chrono des Nations aux Herbiers et les championnats du monde sur piste à Santiago au Chili. Il y a aussi la saison de cyclocross qui démarre. Donc pour le Chrono des Nations, donc il était le 19 octobre aux Herbiers, qui ont accueilli une nouvelle édition du Chrono des Nations. Donc sur un parcours exigeant où les spécialistes de l'effort solitaire ont livré une démonstration de puissance et de précision. Donc chez les élites hommes, le Britannique Joshua Tarling a confirmé son statut de référence en s'imposant avec autorité. Côté féminin, la Suissesse Marlène Russer a conservé son titre, dominant la concurrence avec régularité impressionnante. Cette édition 2025 a une fois de plus célébré la science du chrono, où chaque seconde compte et où les champions se révèlent dans la solitude de l'effort. Donc pour le championnat du monde sur piste en 2025 au Chili, donc ça s'est déroulé du 22 au 26 octobre à Santiago au Chili, donc qui ont accueilli les championnats du monde de cyclisme. Donc deux nations ont particulièrement brillé dans les épreuves collectives. Donc il y a les Pays-Bas qui ont gagné le sprint par équipe aussi bien chez les hommes que chez les femmes, ce qui montre leur puissance dans les épreuves explosives. De leur côté, les Italiennes ont remporté la poursuite par équipe dans les deux catégories, hommes et femmes. Donc c'est aussi une démonstration de force et de stratégie qui illustre le travail collectif sur piste. Pour le championnat d'Europe de cyclocross, donc ce week-end, n'hésitez pas à regarder le championnat d'Europe de cyclocross. Donc c'est le 8 et le 9 octobre.
Sur l'équipe
Je pense, oui.
Okay. C'est souvent Eurosport. Enfin,
ouais, aussi,
je pense, Eurosport, je pense que c'est surtout ça. Voilà.
Voilà, c'est...
C'est tout. Ok, bah nickel. Okay. Moi j'avais une question.
Ouais, moi aussi, vas-y.
Vas-y, non, vas-y, commence si tu veux.
Ok, ma question, elle est un peu, peut-être aucun rapport, enfin si, mais à moitié. C'est comment on devient professionnel?
Enfin, après, je vais te faire pérer. Enfin, c'est
ouais,
l'argent.
C'est ça, ouais.
Faire pérer. Et puis après, c'est vrai que c'est ma question, mais l'argent, ça compte ou pas? Parce que par exemple, dans des sports, il faut avoir de l'argent pour investir et après, tu sais, trouver une équipe.
Après, oui, les plus grandes équipes, oui, vont recruter les plus grands coureurs.
Oui, c'est sûr.
Okay. Voilà.
Mais et après, moi, j'ai une question, mais c'est plus. Est-ce qu'il y a des. Parce qu'on parle beaucoup du cyclisme, on sait que le cyclisme, nous, les Français, on est bons, on peut avoir des petites pépites, mais c'est sûr qu'on ne va pas gagner le Tour de France du jour au lendemain. Est-ce que par là, au championnat du monde de piste, ou Chrono des Nations, ou championnat d'Europe, c'est pas trop ça aussi ou... Parce que là, t'as entendu Clément que t'as dit, c'était les Néerlandais, je crois, il me semble, et les Italiens, qui ont beaucoup. Enfin, c'était au championnat du monde de piste, il me semble.
Oui, c'est
c'était,
ça.
Et les Français, ils sont, on n'est pas les mieux classés, on va dire.
Bon, je sais pas trop.
On n'est pas les meilleurs. Ok, on n'est pas les meilleurs parce qu'après, c'est que le vélo, c'est souvent suivi par les Français, mais on sait pas la discipline, on est les meilleurs.
Ouais.
Enfin, voilà. Non, mais ok, super.
Allez, okay. On passe tout de suite à la Ligue 1 avec Clément.
Bon, on est de retour la Ligue 1 après deux semaines d'absence. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire puisqu'en plus, il y avait une journée de Ligue 1 un mercredi. Du coup, là, ouais. Je vais revenir sur les trois dernières journées du championnat français. Donc on va commencer avec la 9e journée. Donc c'était le premier week-end des vacances. Donc on a commencé avec un alléchant Nantes, Paris FC, donc pour le maintien. Victoire de Nantes 2-1, donc qui se libère un peu de la zone rouge. Ensuite, on avait le champion en titre, le PSG, qui s'est déplacé à Brest. Bon, victoire sans trop forcer des Parisiens, 3-0 sur le sol breton. Un match là aussi pour le concurrent en Ligue des Champions entre Monaco et Toulouse. Victoire des Monégasques 1-0. Donc très bonne opération de la part des Monégasques qui enchaînaient quand même sur quelques contre-performances en Ligue 1. Ensuite là, on avait un bon petit choc en Ligue 1, Lens contre Marseille. C'était un bon petit match entre les deux équipes et ça s'est soldé sur une victoire 2-1 de Lens contre les Marseillais. Donc les Marseillais... tu vas revenir Mamadou après, hein, qui avait perdu en Ligue des Champions contre le Sporting. Ouais. Et là, qui enchaîne juste après par une défaite à Lens. Bon, on aura le temps d'en reparler après, mais Marseille a beaucoup de blessés, un peu comme le PSG. Mais là, attention, Marseille qui perd contre Lens, donc qui échappe des points dans la course au titre. Car oui, cette année, on peut le dire, enfin, Marseille et Paris ne sont pas très loin.
Ouais, ils sont collés cette année.
Ils sont collés, voilà. Bon, après, c'est le début, on verra la suite. Là aussi, après, un autre prétendant pour l'Europe, Lille, qui a affronté Metz. Metz dernier, 0 victoire. Je crois qu'ils sont à 2 points, quelque chose comme ça. Et bon, ça a été encore une leçon, victoire de Lille 6-1 contre Metz. Donc très bonne opération des Lillois. En revanche, les Messins, ça va commencer à être très compliqué. Il va falloir gagner pour dans la prochaine journée. Ils vont jouer contre Lens. Il faut espérer qu'ils gagnent. Et on verra ça. Mais il s'est passé quelques petites choses. Ensuite, il y avait Angers-Lorient. Donc là, un petit match pour le maintien. Victoire de Angers 2-0. Donc très bonne opération de la part des Angevins. Pareil pour Auxerre-Le Havre. Victoire du Havre 1-0. Donc très bonne opération des Havrais. Et on avait un match entre Rennes et Nice. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Mamadou. Habib Bey, le coach rennais qui était sur la sellette. Parce que
j'ai entendu ça.
Ouais, il faisait que des contre-performances, l'entraîneur rennais.
Ouais.
Et donc, le président lui a mis la pression en disant là, s'il n'y a pas de résultat bientôt, pas assez de victoire, là, il va falloir commencer à gagner. Sinon, tout simplement, on tire. Hein. C'est ça. Et ça s'est encore mal passé pour les rennais, puisqu'ils ont perdu 2-1. Alors qu'il me semble qu'ils gagnent 1-0. Je ne sais plus le scénario du match. Sûrement. Mais ils ont perdu 2-1. Donc, Habib Bey, encore une fois, sur la sellette. Mais. Son président après a dit qu'il était encore prolongé d'un match, donc on va voir ce qui s'est passé pour le prochain match. Ensuite, on avait un bon dernier petit match le dimanche soir entre Lyon et Strasbourg, une course un peu pour l'Europe, parce que Lyon est très bien placé, et Strasbourg aussi, Strasbourg très bonne équipe, et victoire de Lyon 2-1, bon il y avait un petit rouge du côté strasbourgeois, mais quand même très bonne opération de la part des Lyonnais. Donc là, on enchaîne avec la 10e journée. Donc ça, c'était mercredi, justement, la journée en semaine. Et donc là, on avait tous les matchs en même temps. Il y avait 4 matchs à 19h et 5 matchs à 21h. Donc pour commencer, à 19h, il y avait Nice-Lille. Victoire des Niçois, 2-0 à Lille. Donc les Niçois qui se relancent, bravo à eux. Et j'en avais parlé, Metz contre Lens. Metz qui devait se relancer après avoir enchaîné que des défaites. Et contre les Lensois, alors que les Lensois, justement, ils étaient très très forts. Ils étaient 2e de Ligue 1 à ce moment-là. Et hop, surprise, victoire 2-0 de Metz, le dernier, contre le 2e de Ligue 1. Je sais pas si t'as entendu parler, Mamadou, peut-être.
J'ai vu le score, mais après, j'ai pas trouvé le match.
Ouais, mais alors, j'ai regardé vite fait le match. Et ils ont bien réussi à tenir la première mi-temps, et finalement, ils ont réussi à s'imposer à la fin. Donc, très bonne opération de la part des Messins, qui se lancent enfin, j'ai envie de dire, à partir de la 10e journée, en lançant leur première victoire donc, contre les 2e de Ligue 1. Très belle performance de la part des Messins, qui, je sais pas si tu connais, Mamadou, le bâton de Bourbotte. Je sais pas si t'as entendu parler.
Ah oui, ok, oui, oui. C'est en gros le gagnant de la Ligue 1. Il me semble que là, du coup, c'était le PSG. Il remporte du coup ce... Non. En fait, c'est un bâton qui change chaque journée. Ouais. Et l'équipe qui bat l'équipe qu'il a... Donc imaginons, Lens joue contre Marseille.
Voilà.
Lens a le bâton. Si Marseille bat Lens, et bah Marseille récupère le bâton.
Ah, oui. C'est pas le vrai trophée, c'est un petit trophée un peu qui fait le tour des réseaux sociaux actuellement.
Connu, ouais, mais...
Actuellement, c'est juste un petit bâton vraiment où il y a marqué bâton de Bourbotte. Et en fait, c'est une équipe qui l'a eu un jour. Et c'est depuis 1948, je crois, il me semble.
Ouais,
donc, par exemple, là, c'était Lens qui l'avait. Donc, si Marseille gagnait, Marseille le récupérait, sauf qu'ils ont perdu. Du coup, Lens le gardait toujours. Et donc, là, c'est Metz, le dernier de Ligue 1, qui le récupère, le bâton.
Ouais,
pour l'instant, c'est eux qui l'ont. Donc, on va voir là, le week-end prochain, qui va avoir le petit bâton de Bourbotte. Est-ce que c'est Metz qui va le garder ou son adversaire? Et on verra ça juste après. Donc, la petite parenthèse assez sympa. Ensuite, on avait là un match pour le maintien, donc pour se maintenir en Ligue 1 entre Le Havre et Brest. Le Havre qui enchaîne encore une deuxième victoire d'affilée contre les Brestois. Très bonne performance de la part des Havrais. Ensuite, surprise, Lorient-PSG. Bon, on sait que le PSG a beaucoup d'absents. Un partout entre Lorient et Paris.
Ça a été le début de la semaine.
C'est ça. Et qui s'est soldé par, malheureusement, pour les Parisiens, une blessure de Désiré Doué.
Ouais.
Donc une rechute, donc ça, très mauvais. Ensuite, Strasbourg-Auxerre, victoire sans trop forcer des Strasbourgeois 3-0. Pareil, Paris FC Lyon, bon, là on avait un super match, 3 partout avec un carton rouge de chaque côté. Bon, vous allez voir, cette journée, c'était du grand n'importe quoi, il y a eu des buts de partout. Donc là, Paris FC Lyon, 3-3. Ensuite, on enchaîne avec Nantes-Monaco, victoire de Monaco, 5-3 à Nantes, donc très bonne opération de la part des Monégasques. Ensuite, Toulouse-Rennes, 2 partout, donc Rennes qui devait gagner pour le coach qui devait sauver sa place. Et finalement, Et bah le président a dit, et bah tu restes encore un match pour tester. Donc il a encore prolongé Habib Bey, l'entraîneur rennais. Et ensuite pour moi finir, on avait Marseille-Angers. Marseille qui pouvait faire une très grosse opération, puisqu'en cas de victoire à ce moment-là, vu que le PSG n'avait pas gagné, que Lens n'avait perdu et autres, si Marseille gagnait, Marseille était premier de Ligue 1. Évidemment, comme c'est Marseille, on a fait match nul contre Angers, 2-2 avec un but de Angers à la 95e, il me semble, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est hyper tard. C'était hyper
donc Marseille tard. Qui finalement est quand même 3e de Ligue 1 avec Monaco 2e. Et donc la journée 11, donc c'était ce week-end, enfin le week-end dernier qui s'est fini. Avec, on a commencé avec un alléchant Paris-Nice et ça s'est donné sur une victoire sans trop forcer des Parisiens 1-0. Enfin sans trop forcer si, puisque je sais pas si t'as vu le match, t'as vu le scénario Mamadou.
Il me semble qu'il y a encore un blessé. Je sais plus si Dembélé s'est blessé quand.
Alors Dembélé, je crois que c'est pas en Ligue des Champions qui s'est reblessé.
Sûrement.
Ou c'est peut-être en Ligue 1, je sais même plus, mais ce que j'allais dire aussi, donc Dembélé qui s'est reblessé. Mais je crois que c'était pas sur ce match, je sais plus. Donc c'était Paris-Nice à Paris 0-0. Dernière action, c'est la 95e. Déjà, c'est la fin du temps. Ouais. Corner pour le PSG. Ils ont dit bon, allez, on va le laisser. Corner du PSG. But de Gonzalo Ramos sur tête à la 95e. Victoire de Paris 1-0 contre Nice. Donc très bonne opération de la part des Parisiens. Voilà, quand même, c'est quand même un coup de génie. Hein, à la dernière minute, dernière seconde. Donc Paris qui s'impose. Donc très bon. Qui, à la fin de la journée, s'assure d'être au moins premier. Ensuite, on avait Monaco-Paris FC. Surprise. Monaco qui perd chez eux 1-0 contre le PFC. Là aussi, un match après, Marseille-Auxerre. Alors, qu'est-ce que c'était triste comme match. J'ai regardé le match, c'était horrible. Marseille, c'était. Ah bon, oh, c'est nul, Marseille, je te jure. En ce moment, avec les blessés et tout. Mais heureusement, on a quand même gagné 1-0. Moi, c'est le principal. Mais c'est très dur, Marseille. Il va falloir se relancer contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Tu vas nous dire après le score, Mamadou.
Ouais.
Mais voilà. Ensuite, il y avait un Rennes-Strasbourg. Donc, Rennes qui devait gagner, comme je vous l'ai dit, l'entraîneur. Et bien, ils ont gagné 4 buts à 1 contre Strasbourg. En plus, Strasbourg, pas n'importe quelle équipe cette année, qui bon, dans les 4 premiers.
Il s'est réveillé, Il s'est réveillé, le coach.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, victoire 4-1 des Rennais. Donc là, le coach Habib Bey est conforté dans son poste d'entraîneur. Ensuite, Toulouse-Lavre. Alors là, un petit match 0-0. Ensuite, Lille-Angers, victoire des Lillois 1-0 sans trop forcer. Lens-Lorient, victoire 3-0 des Lensois qui se relancent. Metz-Nantes. Alors, Metz qui devait conserver son petit bâton de Bourbotte, comme je vous l'avais dit. Et ils ont gagné contre Nantes, deuxième victoire d'affilée de la part des Messins. Donc déjà, ils se relancent pour essayer de se maintenir en Ligue 1. Plus, ils conservent leur bâton de Bourbotte. Donc on verra s'ils vont le conserver le week-end prochain, puisqu'ils vont quand même, ils reçoivent Nice. Nice qui n'est pas n'importe qui. Donc on va voir la semaine prochaine si Nice récupérera le fameux bâton de Bourbotte. Et on a fini par un triste match Brest-Lyon. Alors un carton rouge des Lyonnais dès la 6e minute et ça s'est fini sur un 0-0. Donc c'est un peu dommage que ça se finisse comme ça, mais voilà. Donc le classement après ces 3 journées, donc le classement actuel de Ligue 1, on a premier le PSG avec 24 points et c'est très serré. Hein. Deuxième Marseille, seulement 2 points derrière avec 22 points. Troisième Lens, même nombre de points que l'OM, 22. Quatrième Lille, 20 points. Cinquième Monaco, 20 points. Lyon, sixième, 20 points. Donc rendez-vous compte, entre les 6 premiers, il n'y a que seulement 4 points d'écart. Et pour gagner, quand on gagne un match, c'est 3 points d'écart. Donc ça montre vraiment que c'est ultra serré. On retrouve ensuite Strasbourg 7e, Nice 8e, etc. Et en bas de tableau, comme j'ai dit, Metz qui était très bon dernier, ben avec leurs 2 victoires, ils passent plus dernier, mais avant-dernier. Donc 16e Lorient avec 9 points, 17e Metz avec 8 points. Et pour finir, Auxerre, dernier malheureusement avec 7 points. Ça, maintenant, c'est attention, Auxerre, il va falloir se réveiller. Et attention, Nantes, Lorient et Angers qui sont pas loin de descendre aussi en Ligue 2. Là. Ben après, c'est que le début de saison, mais voilà. Un petit mot des classements des buteurs, je pense que tu en entendais parler, Mamadou.
Des buteurs, il me semble que Greenwood était pas mal au début.
Greenwood était pas mal au début, il est 3ème égalité toujours, avec Esteban Lepaul, l'attaquant rennais, mais c'est une surprise en Ligue 1 cette année. C'est Joachim Panicelli, l'attaquant strasbourgeois, donc Strasbourg qui fait une super saison. Il a 9 buts déjà au bout de 10 journées, enfin de 11 journées, donc c'est vraiment une très belle performance de la part du strasbourgeois. Donc voilà pour la Ligue 1, donc on se retrouve la semaine prochaine pour en parler. Il y aura des bons petits matchs, notamment un Paris-FC Rennes pour commencer, Marseille se débattra à Brest. Un Monaco-Lens, attention, ça va être bien regardé. Metz-Nice, on va voir si Metz va conserver son bâton de Bourbotte. Strasbourg-Lille, très gros match aussi. Et on va finir avec un Lyon-PSG.
Dimanche
soir.
Donc
soyez là la semaine prochaine sur Delta FM, parce qu'on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Mais ça annonce être du très gros, du très lourd.
Ok, merci beaucoup Clément. On va passer à la Liga. C'est reparti, on va parler des matchs qui ont eu lieu durant les vacances, puis après on parlera de ceux qui ont eu lieu cette semaine. Alors en termes de gros matchs intéressants, on peut commencer je pense avec le Classico. Donc est-ce que vous savez ce que c'est le Classico ?
Non.
Dans le foot ? Ok, donc le Classico en gros c'est le match qui confronte le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc, c'est les deux meilleures équipes d'Espagne et voire deux même des meilleures équipes du monde. En vrai.
Historiquement, ouais, c'est ça.
Ouais. Donc, match très tendu. Franchement, c'est un match... à l'époque, c'était l'un des matchs, voire le match le plus regardé au monde. Aujourd'hui, il a un peu perdu en hype, on va dire. Mm. Mais il reste quand même très, très, très regardé, très, 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 très vu. Donc, victoire...
Ouais. Juste dernier truc, c'est que qu'est-ce que vraiment c'était regardé, parce que c'était un peu aussi Messi contre Ronaldo,
Messi, ouais.
Messi au Barcelone et à Barcelone et Ronaldo à Real.
Attention, ouais, c'était
exactement
ça.
Exactement.
Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, ils sont partis, mais c'est en train de revenir là justement. Donc victoire 2-1 du Real Madrid face au FC Barcelone, but de Mbappé, de Bellingham et but pour le Barça de Fermín López. Donc un match très très. Bah, je pense que c'est le meilleur match du Real en vrai cette saison. Ils ont très bien joué, franchement. Ouais. Certes, le Barça avait des blessés, mais voilà, très bon match du Real.
Ils ont réussi à cadenasser Lamine Yamal, hein, qui n'a pas fait un super match, qui a même été critiqué après.
Après, il est un peu blessé, je crois.
Oui, aussi. Ouais. Mais bon, après, quand on voit aussi son père qui chambrait sur les réseaux sociaux, comme quoi il allait manger le Real et tout.
En vrai, de vrai, moi, je ne suis pas contre ça. Moi, je trouve que ça met de l'attention. Mais c'est vrai que là, du coup, il a parlé, il a pas trop assumé.
Attends, pense quoi de Lamine Yamal ? Lamine Yamal, la personne, plutôt que le joueur. Parce que le joueur, on sait que c'est un joueur exceptionnel, mais le...
En vrai, compliqué à dire si je me base que ce qu'on voit sur les réseaux, mais je sais pas, compliqué, je pense.
Ouais, ok. Après, c'est vrai que c'est un peu... Il a un peu la vision d'un gamin, tu sais, tête cramée, tête brûlée, qui se la pète
un peu. Peut-être un peu, mais je sais bon. Pas. C'est compliqué à dire.
Et c'est quand même un super joueur.
On a eu une victoire 2-0 de Villarreal face à Valence. Petite victoire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'intéressant ? On a eu la victoire aussi de l'Atlético de Madrid. Donc c'est le troisième club en Espagne en vrai. Quatrième parfois. face au Real Betis. Et donc cette semaine, on a eu un très très gros match, encore une fois, de l'Atlético de Madrid face à Séville. Donc on a eu un Griezmann en feu qui a mis un but, je crois.
Il est rentré à la toute fin,
mais je crois qu'il a marqué, ouais.
C'est son 200e but en Liga.
Ouais.
C'est une légende quand même de
championnat. C'est bien, mais quand on prend le temps qu'il a fait, franchement, c'est...
Ouais, c'est vrai. Bah après, c'est quand même une légende de... C'est un peu, tu sais, Cavani en France, tu vois, c'est quand même... Il a marqué le championnat français, il a quand même 200 buts en Liga.
Mais je trouve que Griezmann, je sais pas, genre, j'ai le sentiment de... peut faire plus, je sais pas.
Ouais, je suis d'accord.
Il aurait dû partir de ce club, en vrai.
Il est parti au Barcelone.
Oui, il est parti an ou deux ans, puis
un an et puis c'est mal, voilà. Mais après, ça montre son attachement pour le club et
franchement, à son niveau là, il aurait pu partir en France, je sais pas ailleurs.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs, ça a été de départ, mais il est resté finalement.
Ouais.
Mais il fait quelques matchs, il était sur le banc et justement, il est rentré à toute fin, il a marqué.
Ouais, là, il est mieux là.
Mmh, il va mieux en ce moment.
On a eu une victoire du FC Barcelone en souffrance, hein, 3-1 face à Elche. Ils avaient du mal, le Barça, en première mi-temps. Puis ils ont réussi à ouvrir le bus des adversaires.
Elche, ouais.
Et enfin, du coup, dernier match, le Real Madrid qui fait un très très gros match face à Valence. Victoire 4-0, beaucoup de buts. On a aussi un but d'Alvaro Carreras qui met une énorme frappe au début de la surface.
Un joueur du Real ?
Ouais.
Je connais pas lui.
Nouveau défenseur, ouais.
Je connais.
Il vient de Benfica. Hop, donc en termes de classement, donc premier, le Real Madrid avec 30 points. Le deuxième, donc le Barça avec 25 points. Le troisième, Villarreal avec 23 points. Puis après, le quatrième, on a l'Atlético de Madrid avec 22 points. Et donc, dans le bas du classement, on a Gérone avec 7 petits points et une pauvre victoire. Un peu comme Metz, en fait.
Ouais, exactement. Mais Gérone, tu te rappelles pas, il y a deux ans.
Il y a deux ans, ils étaient deuxième.
Ils étaient en Ligue des Champions. Et donc là, la plus grande compétition d'Europe. Et là... Ils sont derniers en Espagne.
On a le Oviedo donc, qui est avant-dernier avec 8 points. Mmh. Et puis pour le reste, c'est tout. On pourrait juste parler de peut-être Séville qui est 13e.
Et la Real Sociedad 14e aussi. C'est
aussi,
pas
ouais. Mmh. Donc c'est bon pour la Liga. Je vais passer à la Ligue des Champions. Allez, c'est parti. On va reprendre, pareil que pour la Liga, les matchs qui ont eu lieu durant les vacances. Puis on va enchaîner avec les matchs qu'on a eu cette semaine. Donc, durant les vacances, je vais commencer avec la victoire 6-1 du Barça face à l'Olympiakos. Le Barça qui fait une très grosse victoire. Donc ça, c'était avant le Classico.
En plus, l'Olympiakos, c'est pas n'importe qui. C'est quand même une bonne petite équipe d'Europe.
C'est ça, ouais. Je vais parler aussi d'un match très, on va dire, très entendu, très moqué sur les réseaux. Arsenal face à l'Atlético de Madrid. Donc, c'est deux équipes qui jouent un football assez... On va dire qu'ils sont... Comment dire ? Disons que leur football est très... pas anti-jeu, mais disons que c'est pas du beau football, entre guillemets. Parce qu'ils sont très... très axé sur la défense, sur le jeu agressif, sur le porteur, sur les contres rapides. Mais c'est aussi une façon de jouer qui fonctionne. Hein. Donc voilà, c'était un match très entendu. Victoire 4-0 d'Arsenal. Voilà.
Sans bavure, exactement. Ouais. Je sais pas si t'as vu le craquage de l'entraîneur de l'Atlético à la fin.
Ouais, il a pété un plomb.
mais voilà. C'est une grosse victoire.
Victoire 2-0 de Manchester City face à Villarreal. J'ai pas vu le match.
Non, non.
Voilà. Victoire 4-0 d'Inter Milan face à l'Union Saint-Gilloise.
Victoire normale.
On a eu aussi une victoire, très très grosse victoire du PSG. 7-2 face au Bayer Leverkusen. Donc festival de buts. Hein.
Ouais, franchement, ils ont surclassé. Hein. C'était un match à sens unique. La PSG a quand même largement dominé cette équipe de Bayer Leverkusen.
Et en parlant de score, on a eu 2-5-1. Donc le premier 5-1, c'était Liverpool face à Francfort. Et le deuxième 5-1, c'était Chelsea face à l'Ajax. L'Ajax qui a du mal simplement cette saison-là.
Ils ont une équipe que de jeunes. Après, ils avaient joué contre Marseille, ils avaient pris 4-0.
Ouais. Donc, c'est compliqué.
Ajax, c'est très compliqué. Ouais.
Le Bayern, eux, qui mettent à 4-0, mais à Bruges. Mmh. Et après, on a eu le match du Real Madrid face à la Juventus. 1-0. Match un peu plus difficile du Real. Mais ils s'en sortent. Grâce à un but de... Je crois que c'était Mbappé.
J'ai pas regardé, je te rends pas.
Je sais plus qui a marqué.
Il y l'OM en même temps, j'ai pas regardé.
Et en parlant de l'OM, ils ont perdu 2-1 face au Sporting Portugal.
Malheureusement.
Donc Marseille, là, qui perd en Champions League, c'est... Attention.
Alors, je sais pas si t'as vu la physionomie du match. Parce que oui, enfin, tu sais pas, moi je supporte l'OM, je supporte Marseille.
Rouge, je crois.
Okay. Bah, en fait, il y a un carton rouge, c'est ça. En fait, on gagnait 1-0. Et on a eu un carton rouge. En fait, il y a polémique. C'est qu'en fait, le premier jaune de Emerson, c'est que... En fait, il fait main, mais tu sais, il fait pas exprès. Enfin, c'est l'arbitre met jaune direct, tu vois. Alors, tu vas pas mettre jaune tout de suite. Et c'est après, genre, il simule dans la surface. Du coup, il y a deuxième jaune, carton rouge. Et c'est le premier jaune qui est sévère. Et là, ça fuse.
il simule, franchement.
Non, mais oui, il simule. Mais là, oui, il simule. En fait, mais c'est surtout, en fait, le premier jaune, il n'y a pas jaune. Donc, ça fait encore une polémique contre Marseille. Et commence pas à dire, voilà, les Marseillais, toujours contre l'arbitrage. Non, là, c'est factuel. Le premier jaune est sévère. Mais et après, du coup,
le deuxième, il abuse. Hein.
Oui, le deuxième, c'est sûr. Oui, il doit pas simuler alors qu'il sait qu'il a un jaune. Mais tu sais, quand t'es dans le feu de l'action et tout. Voilà. Et du coup, après, alors que normalement, le Sporting, on va le voir après, ils ont encore fait un mauvais match en Ligue des Champions. Mais là, quand tu vois qu'on normalement, on doit les manger chaque jour. Et du coup, avec le carton rouge, on perd 2-1. Oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
Ouais. On va passer du coup à l'autre journée de Champions League. Donc, c'était cette semaine. Et on a eu une victoire du Bayer Leverkusen 1-0 face à Benfica. On a eu un match nul très très tendu entre le Barça et Bruges. Le Barça qui a failli perdre. Hein, parce qu'il y avait 4-3 à la fin du match, mais le but était annulé pour hors-jeu. Donc le Barça qui gratte, qui arrache le match nul. Hein, on peut dire ça comme ça. Qui arrache le match nul.
Contre Bruges en plus. Mais c'est Bruges, c'est pas facile. Hein, parce que Monaco avait perdu 4-1 à Bruges. Là, Barcelone qui arrive pas à gagner à Bruges. C'est dire que Marseille va se déplacer là-bas. Moi,
j'ai hâte de voir ça.
Je sens pas confiance.
L'Ajax qui perd encore 3-0 face à Galatasaray.
L'Ajax, c'est un peu
mal. Manchester City qui gagne 4-1 face à Dortmund. Festival de buts aussi. Je crois que Haaland et Cherki, ils ont régalé.
Ouais, Cherki a marqué, exactement.
Quoi d'autre ? On a eu la défaite donc, de Marseille face à l'Atalanta, 1-0. J'ai pas vu le match.
Alors ?
J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but qui est totalement honteux.
Je vous allais me dire, pour le coup, je peux Clément, le dire, le but c'est. Voilà, t'abuses, encore l'arbitrage, mais alors là, mais c'est. Alors, je vais te dire d'un truc d'abord. Marseille, on a joué, mais c'était nul. L'équipe était nulle. Vraiment.
En plus, à domicile.
C'était affreux à voir, mais l'arbitrage, moi, il faut en parler. Il y a presque la toute fin du match. Il y a le mec de l'Atalanta dans la surface, il fait une main, mais décollée, pas possible, il y a main. L'arbitre siffle rien, contre-attaque de l'Atalanta et but, en plus le but il est magnifique, il le met une fois sur 10 et comme par hasard il le met. Bon, et après l'arbitre qui s'y revient pas, non, moi je trouve ça scandaleux, mais bon, après,
vois, l'arbitre il est tellement fou.
Non, mais même là, tu vois, même toi qui déteste l'OM,
moi je suis neutre,
mais même toi qui critique l'OM, là tu dis qu'il y avait pénalty.
L'arbitre il a même pas essayé
de voir la VAR, mais il a dit je m'en fous, je vais pas voir la VAR.
T'es convaincu, hein.
Mais non, mais c'est une honte. Du coup, on sait encore, Marseille, on perd encore à cause de l'arbitrage. Voilà, bon, après on n'a pas été bon, mais c'est l'arbitrage, voilà.
Bon, match nul de Chelsea 2-2 face à Karabag. Quoi d'autre ? On a eu la victoire 4-0 de Tottenham face à Copenhague. La défaite du PSG 2-1 est défaite terrible pour le PSG parce qu'ils perdent deux joueurs.
Ouais, c'était là.
Ils perdent Nuno Mendes blessé, Hakimi blessé. Donc voilà, le PSG qui perd tout là.
Exactement. Plus de blessés.
Et qui d'autre ?
Il y a beaucoup de blessés.
Oui, beaucoup de blessés.
En fait, c'est ce qu'ils attendaient, c'est que cet été, il y avait la Coupe du Monde des clubs. Et c'est ça, en gros, ils ont enchaîné les matchs et du coup, ils n'avaient plus de. Là, il n'y a que ça. Enfin, ils ont encore 10 blessés, il me semble. Enfin, c'est comme Marseille, il y a plein de blessés. Mais bon, après, il faut qu'on parle quand même du Bayern Munich qui est tout simplement. Depuis des blessés, 16 matchs, 16 victoires. Donc, c'est simple.
Là, c'est la meilleure équipe du monde.
C'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Ouais. C'est vraiment, pour moi, le favori de la. Parce que le début encore, mais franchement, ils sont super forts.
On a eu quoi d'autre ? On a eu la victoire 3-1 de l'Atlético face à l'Union Saint-Gilloise et une victoire 3-0 d'Arsenal face à Slavia Prague. Mmh. Et donc, je vais finir sur le match qui a eu lieu mardi soir. La défaite 1-0 du Real face à Liverpool.
Ça,
franchement,
t'as mal dormi ?
Je trouve ça énervant parce qu'on perd contre l'Atlético qui enchaînait les défaites. Vraiment, ils étaient archi nuls. Ils jouent contre le Real, ils se réveillent, ils sont hyper forts. Et là, c'est pareil. Liverpool qui était vraiment archi nul. Et là, comme
c'est
de par hasard.
C'est qu'ils enchaînaient les défaites.
Comme de par hasard, ce boss-là qui fait. Non, mais qui est trop fort, tout le monde est trop fort. C'est n'importe quoi. En plus, ils mettent un but et après, ils mettent le bus. C'est honteux.
Non, mais
ils sont chez eux.
Oh, l'objectivité de Mamadou.
Ils sont chez eux. Ils mettent le gros bus.
Allez, ta finale, il est combien, Mamadou ?
1-0, mais
voilà.
Je trouve qu'ils ont pas honte. En plus, ils ont osé siffler leur ancien joueur. Là, c'est.
Et après, ça, c'est. Tu connais les supporters, il y en a, ils sont pas tous intelligents.
Ils sont horribles, hein, ouais. Ah, ça m'énerve.
Oh là là.
Et franchement, ils étaient archi nuls. Et puis là, ils gagnent. Puis Mbappé qui.
J'ai pas regardé, il a fait un bon match.
Il a fait un mauvais match. Hein. C'est son pire match de la saison. Là.
Ouais.
En fait, là, le problème du Real, c'est que quand ils jouent contre des équipes qui font un bon bus, et bah, ils ont du mal à gagner. Non, mais c'est vrai pour le coup.
Oui.
Parce qu'en Liga, ils jouent.
En bloc bas.
Bah là pour le coup c'était un peu chaud là.
Okay.
Parce qu'en fait quand ils ont une équipe aussi forte défensivement, ils se fait vu qu'il n'y a pas vraiment de neuf, Mbappé décroche beaucoup, ça fait qu'ils ont du mal à déstabiliser les blocs, je trouve. Ouais. Un peu comme le PSG au tout début. Ouais. Ils avaient du mal, mais aujourd'hui ils sont trop forts le PSG.
Ça pour expliquer un peu en Clément, c'est que Liverpool ils ont marqué. En fait, ce que veut dire Mamadou, ce qu'ils ont marqué juste derrière, en fait, bus en gros, ça veut dire que
ils sont
tous venus, ils sont défendus devant leur but. Ouais. Et c'est ça que ça l'énerve parce que.
Et chaque ballon qu'ils gagnaient, ils fêtaient dans le stade. Dès qu'il y avait touche, ils étaient en train de célébrer.
Ils jouent le Real, c'est normal.
C'est horrible. Ouais. Bon, donc en termes de classement, bien, le premier, donc évidemment, le Bayern Munich, invaincu, que des victoires.
Ouais, mais ils sont 16 matchs.
Deuxième, pareil, invaincu, Arsenal. 4 victoires, 4 matchs. Pareil, troisième, Inter Milan, 4 victoires, 4 matchs. Et donc le troisième, on a Manchester City avec 3 victoires. Puis après, derrière, on a le PSG avec 3 victoires aussi. Donc Marseille, eux, ils sont...
Ouais,
Marseille.
Ouais, c'est la fin de l'épisode.
Il faut descendre. Hein.
Non, alors, on est 25e.
125e.
Mais tu sais que Marseille, c'est pas.
Sur 36. Hein.
Non, mais tu sais qu'en fait, là, on peut dire, c'est que c'est les 24 premiers qui vont au tour suivant. Et Marseille, on est 25e. Mais sauf qu'on joue des très gros clubs. Là, on va affronter Newcastle. Tu vas à Bruges, qui au Barcelone n'a pas réussi à gagner là-bas. Tu affrontes Liverpool qui vient de battre le Real de Madrid. Et après, tu finis peut-être l'Union Saint-Gilloise. Ok, là, mais sinon, franchement, Marseille.
Saint-Gilloise.
Non, mais là, Marseille, c'est vraiment très compliqué de se qualifier en Ligue des Champions. Moi, je le dis là, maintenant, si Marseille finit les 24 premiers à la fin de la saison de Ligue des Champions, là, c'est un exploit. Pour moi, là, Marseille, c'est fini. Okay. C'est fini.
T'es aussi peu confiant.
Non, mais tu joues Newcastle, Liverpool, tu vas à Bruges, où Barcelone n'a même pas réussi à gagner à Bruges.
Après, le Barça, en ce moment, ils sont éteints.
Non, mais même le Bruges là-bas, ils sont forts. Hein. Monaco s'en est pris une, ils ont pris 4-0 là-bas. Le Barça n'a pas gagné. Là, après, Liverpool qui vient battre le Real.
Ouais, Liverpool. Ouais,
et Newcastle, c'est trop fort. Non, franchement, Marseille, si on finit le 24 premier, c'est un exploit.
Après, je pense qu'il est temps pour Marseille de devenir ou redevenir un gros club là, parce que. Mais je sais pas s'ils veulent gagner la Champions League, à un moment donné, il faut gagner.
Non, bah oui, non, mais attends, il y a des étapes à passer. Parce que là, tu vas pas dire, on arrive avec des champions et direct, on va gagner la Champions League, non. Mais.
Faut se réveiller, quoi.
Non, oui, mais après, c'est pas encore pour tourner sur les arbitres, mais quand tu vois que le premier match, le contre le Real, je sais pas si tu te rappelles,
il n'y a pas
pénalty pour le Real. Là, le Sporting, le premier jaune.
Après, pour le
jaune.
Coup, le Marseille a pas non plus. C'était pas.
Ah non, ils sont pas forts.
Oui,
hein,
voilà,
mais vraiment, ils ont fait un match horrible contre Atalanta, faut pas cacher ça. Mais juste quand même que l'arbitre. Premier match le Real.
L'arbitre, c'est pas avec vous, on va dire.
Voilà, l'arbitre, premier match contre le Real, il n'y a pas pénalty. Là, deuxième, premier jaune contre le Sporting, il n'y a pas jaune. Et là, c'est quand même, moi, je veux dire, il met la main et il siffle pas. Donc, bref. Je ne vais pas me refermer sur l'arbitrage parce qu'on joue mal, mais bon, ça,
Ça enlève évidemment des points.
Ok, bon, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on fera un petit débat la semaine prochaine, ce serait bien.
Ça marche.
Je sais pas sur quoi encore, mais on verra bien. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission. Salut.
Salut. Salut.
C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM.
J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. Écoutez, c'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.